Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles s'attablent ».
Elles s'attablent.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, podcast du magazine Elle à table sur les femmes qui changent le monde à travers nos assiettes. Ce matin, nous sommes dans un Paris tout pluvieux, mais c'est normal, c'est l'hiver. Il n'y a pas beaucoup de lumière, on est près de la place de la République, rue de Nazareth précisément, au Café Caron. Je dois vous faire une confidence, je ne bois pas de café. Pourquoi ? Parce que très souvent, je trouve que le parfum est délicieux, mais le goût est amer et pas très intéressant. Je vais faire une exception aujourd'hui, bien entendu, car on est peut-être dans un des endroits de France où on boit le meilleur café, qui est fabriqué, imaginé, créé par une femme, Anne Caron, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Anne, merci.
Bonjour.
Elle s'attable.
Vous êtes torréfactrice. Mieux que ça, vous avez été élue en 2017 meilleure torréfactrice de France. Qu'est-ce qu'être torréfacteur ?
Le métier de torréfacteur, c'est un métier qui peut se décomposer en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller sourcer, de se rapprocher des producteurs et d'aller sourcer les meilleurs cafés. Une fois qu'on a ces cafés, c'est une cuisson. On a du café vert et ce café vert, on doit le cuire. Et comme toute cuisson, ça demande beaucoup de subtilité. Et après, on est un peu un métier de passeur, donc on fait le lien entre le producteur et le consommateur. Et notre rôle, c'est d'être ambassadeur du producteur et de la filière café.
Donc il y a à la fois la sélection, mais ça signifie aussi accompagner les producteurs pour obtenir le café vert idéal tel que vous l'imaginez.
Beaucoup, beaucoup de choses se passent dans le pays producteur. En fait, 80% du café, du métier du café, se passe dans le pays producteur. Le caféier a toute son importance dans la qualité du café. On retrouve cette notion de terroir, en fait. C'est très lié, c'est un métier qui est très lié à la terre. Donc cet arbuste donne un fruit, la cerise, et chaque cerise contient 2 grains de café vert. Et c'est ces cafés verts que je vais sourcer. Toutes les étapes dans le pays producteur consistent à cultiver, récolter, et ce qu'on appelle le process, c'est-à-dire séparer le fruit du grain.
Vous avez 4 pays principaux avec lesquels vous travaillez, le Nicaragua, le Costa Rica, le Brésil et l'Éthiopie. J'ai réussi. D'autant que l'Éthiopie est le berceau du café.
Tout à fait, c'est l'origine de l'homme et l'origine du café.
Ce qu'on appelle le mocha.
Exactement. Mocha, ça rassemble presque une centaine de variétés de café qu'on retrouve en Éthiopie. La particularité, c'est que ce sont des espèces qui, pour la plupart, sont endémiques, donc qui n'existent qu'en Éthiopie.
Alors, je suis en train de boire un café. Écoutez, les amis, c'est intéressant. Je dirais que c'est intéressant parce que je ne suis pas du tout familière. Il y a une petite acidité au début de bouche. Il y a un tout petit peu d'amertume, mais très léger comme un voile. Et ça n'est pas du tout effectivement le café qui me donne toujours l'impression que mes dents vont tomber avec lorsque je le bois dans la plupart des établissements. Aujourd'hui, il y a deux grandes familles dans les cafés, les Arabica et les Robusta. Quelles sont les différences entre ces cafés ?
Alors Robusta, comme son nom l'indique, ça vient de robuste. Donc c'est une plante qui a été sélectionnée parce qu'elle est plus robuste, elle est plus productive. La contrepartie de ça, c'est que son goût est robuste aussi. Donc on a un goût qui est très terreux, qui est très amer, et c'est un café qui est chargé en caféine. Si on veut aller chercher de la finesse, on va aller plus vers les Arabica. L'Arabica, c'est une plante qui pousse entre 800 et 2000 mètres d'altitude. Les goûts sont beaucoup plus fins, mais c'est une plante qui est beaucoup plus sensible aux maladies.
Presque 6 kilos par personne et par an, les Français sont des champions de consommation de café. Après l'eau, c'est leur deuxième boisson préférée.
C'est vrai que sans mon grand bol de café, la journée commence un peu difficilement.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un Arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
En dosette, en capsule, moulu ou en grains, de 10 euros le kilo pour le mélange entrée de gamme à 169 euros le kilo pour le Blue Mountain, un grand cru très rare, le café se décline sous de nombreuses formes et ce que les clients préfèrent ici, c'est le café fraîchement moulu.
Je trouve qu'il a beaucoup plus d'arômes et je le préfère comme ça.
J'aime bien le parfum.
Vous êtes donc torréfactrice, vous avez passé ce concours en 2017. Ce qui vous a donné une renommée assez exceptionnelle en France, mais à l'étranger également. Qu'est-ce qui vous a fait devenir torréfactrice, Anne Caron ? Comment tombe-t-on dans le café ?
Alors moi, j'y suis tombée toute petite, puisque mon père était torréfacteur. Je l'ai toujours accompagné, j'ai appris à torréfier en le regardant de manière empirique. Et quand j'ai dû torréfier par moi-même, je me suis dit, mais la meilleure façon d'être sûre que j'apporte la meilleure façon de torréfier à mes clients, à mes consommateurs, c'est de passer ce concours.
Et donc, deux années de préparation ?
Deux années de préparation, et finalement, en 2017, j'ai été élue meilleure torréfactrice. Donc il y a des épreuves de sélection du café vert, il y a des épreuves de dégustation, des épreuves de connaissance générale, et des épreuves, bien sûr, de torréfaction.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Anne Caron, d'avoir ce titre ?
Ça m'a apporté la reconnaissance. De la reconnaissance, surtout dans le monde du café, puisque j'étais aussi la première femme meilleure torréfactrice. Donc ça, je pense, a apporté quelque chose aussi à la place de la femme dans ce métier, qui est plutôt un métier d'homme. Ça m'a beaucoup apporté de confiance en moi pour l'avenir.
Vous avez évoqué votre père très rapidement tout à l'heure, en disant que vous étiez née dans le café. L'histoire de vos parents, les fondateurs des Cafés Caron, est quand même assez originale. Alors, j'ai cherché un petit peu pour préparer cet entretien et j'ai découvert que votre père avait été garçon de café au départ.
Tout à fait.
Et qu'en fait, il a eu envie de se lancer dans le café.
Il a eu très vite envie de se lancer dans le café. Un entrepreneur, en fait. C'est un Normand qui est arrivé sur la région parisienne pour trouver du travail à l'âge de 17 ans. Fin 60, début 70, il trouve cette place de garçon de café. Mais lui, en Normandie, il venait de Duclair, pour ceux qui connaissent la région normande. Et Duclair, c'est entre Rouen et Le Havre. Et Le Havre, c'est là où arrive le café. Donc il a été baigné dans cet univers de café. Quand il est arrivé comme garçon de café, il a vu aussi à quel point on maltraitait le produit et à quel point peu de gens s'intéressaient à ce produit-là. Donc, il a eu très vite envie de faire ce métier de torréfacteur. Et après, il n'a pu le faire que quand il a eu les moyens de le faire.
Alors d'abord, il a eu la chance d'avoir votre mère.
Tout à fait.
Qui, elle, était bretonne, travaille dans la comptabilité et donc devait être un monstre d'organisation.
Exactement.
Voilà, il achète des machines, mais il se dit très vite, je veux faire le meilleur café.
Il achète des machines, il travaille avec un autre torréfacteur, un torréfacteur industriel, et très vite il se dit « mais je veux faire mon café, et je veux faire le meilleur café ».
Et alors il essaye.
Et alors il essaye dans une prise de position qui était assez révolutionnaire pour l'époque dans le monde du café en France, c'est-à-dire un 100% arabica des hauts plateaux, les meilleurs cafés pour mettre dans des machines à café. C'était révolutionnaire et il n'avait qu'une seule constance, c'est d'aller chercher les meilleurs cafés, les meilleurs arabicas du monde.
Et donc il voyageait lui aussi à la recherche des cafés ?
Tout à fait, il voyageait. Il avait déjà commencé à nouer ce lien avec les producteurs que moi j'ai amplifié par la suite.
Est-ce que vous imaginiez déjà à l'époque que votre vie serait à ce point liée et à ce point transformée par le café ?
Très honnêtement, non, absolument pas. Je pense que quand on est adolescent, on n'imagine pas faire la même chose que ses parents. Donc suite à mes études, j'ai fait des études de biologie végétale, mais sans penser le moindre mot, je ne pensais pas du tout m'engager dans le monde du café.
Oui, pas dans cette voie-là.
Pas du tout dans cette voie-là, non. Je pensais faire de la recherche appliquée, en l'occurrence. Mmh.
Et donc, vous êtes dans cette carrière de biologie végétale, vous allez aux États-Unis, vous allez en Nouvelle-Zélande. Et quand est-ce que vous basculez et pourquoi ?
Vraiment petit à petit, en fait. Donc, je me réalise au bout d'un moment que la recherche ne me fascine pas dans son quotidien. Oui. Je me dis, je ne me reconnais pas trop là-dedans. Et je m'oriente, je me reconvertis complètement et je m'oriente vers le conseil et l'organisation des entreprises. Et je commence à devenir consultante pour mettre en place des normes dans les entreprises.
Donc là, ça change beaucoup plus ?
Ça change complètement. Et je mets en place des certifications. Donc, certification ISO 9000, méthode HACCP. Et petit à petit, avec mes connaissances dans le monde du végétal, je certifie des torréfacteurs.
Ah, mais vous n'avez pas commencé par votre famille.
Je certifie des torréfacteurs et je profite pour certifier l'entreprise de mes parents. Et là, je mets un pied dans l'entreprise et ça a été terminé.
Et là, vous êtes aspirée.
Je suis aspirée. Et au fur et à mesure, l'entreprise est en croissance et au fur et à mesure, les postes se libèrent. Et du coup, je prends ces postes. Et puis, 5-6 ans plus tard, je m'aperçois que je n'ai absolument plus de conseils. Je suis dans l'entreprise de mes parents. Je prends les voies de commerce, des achats, la direction de l'exploitation. Et voilà. Voilà comment je me suis retrouvée dans l'entreprise.
Depuis bientôt 40 ans, la brûlerie Caron propose une recette unique qui régale tous les amateurs de café. Assemblage 100% arabica, cette création originale est l'œuvre du fondateur de la société, Sylvain Caron.
J'ai toujours été dans le monde du café, soit l'hôtellerie, les importateurs de café, j'ai toujours été baigné dans ce métier. Et j'ai concrétisé mon rêve donc il y a 25 ans en commençant à torréfier mon café pour mes machines. Donc je faisais mon café pour moi. C'est pour ça que je me suis jamais préoccupé de faire plusieurs assemblages. Je fais ce que je trouve le meilleur.
Aujourd'hui, il y a 150 personnes qui travaillent pour les cafés Caron.
Oui.
C'est c'est ce qu'on appelle une TPE, une grosse PME.
Une petite PME ou une grosse TPE.
150 personnes, c'est déjà beaucoup. Vous avez plusieurs établissements.
Oui.
Paris, Rouen, Le Havre, que vous avez racheté récemment. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'acheter d'autres établissements en dehors de Paris, par exemple ?
Tout simplement par affinité avec la Normandie. En fait, c'est un retour aux sources. J'ai racheté d'abord une affaire qui s'appelle les Cafés du Chessois, qui est un grand nom du café. Et quand j'ai su que cette affaire était à vendre, je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai appris quelques temps plus tard que les Cafés Jeanne d'Arc à Rouen, mes grands-parents étaient commerçants à Rouen. Et donc, c'est aussi une torréfaction que je connais et quand j'ai su que c'était une torréfaction qui était fragilisée, c'est comme si le devoir m'avait appelé, il fallait que je donne un coup de main et que je redresse l'affaire.
Et alors, les cafés du Chessois et les cafés Jeanne d'Arc, aujourd'hui, font leur propre blend, leur propre mélange ?
Tout à fait, en fait, j'ai voulu que chacune de ces maisons garde son ADN, j'y apporte ma philosophie du café. Donc les cafés du Chessois est plutôt orienté sur la sélection des blends et la création de blends éphémères et la sélection d'origine pure. Et les cafés Jeanne d'Arc plutôt vers des blends institutionnels.
Vous avez donc repris les cafés Caron. Vous êtes aujourd'hui là. Patronne, si on résume.
Tout à fait.
Ce qui signifie donner un cap, donner une stratégie, gérer, garantir que ça fonctionne. Quelle est votre clientèle, Anne Caron ?
À 90%, je travaille avec les entreprises.
Entreprises au sens classique du terme ou monde de la restauration?
Non, entreprises, sièges sociaux, donc le monde de l'entreprise. Et donc, ma clientèle, ce sont les employés de ces entreprises.
Qui ont la chance de très bien boire du café.
Et du très bon café.
Du très bon café.
Ce qui rend
très productif. Petit message à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous diriez, Anne, que être une femme change la manière de travailler ou la manière d'envisager des postes pareils?
S'il y a quelque chose qui ressortirait de la façon de diriger d'une femme, c'est peut-être, je le dis sans prétention, mais beaucoup d'humilité et de plus de remise en question. Quand on dirige une entreprise, on ne peut pas diriger avec des certitudes, on dirige avec de l'incertitude. Et c'est l'incertitude qui donne le cap, puisqu'on doit sans arrêt se remettre en question.
Et Dieu sait que ces trois dernières années, l'incertitude a été particulièrement présente.
C'est très clair et c'est très difficile. En fait, on est toujours dans le questionnement, dans une activité qui est fluctuante. Des fois, ces trois dernières années, franchement, moi et mes équipes, on a eu l'impression de passer dans des machines à laver constamment. Et la seule façon pour moi de pouvoir naviguer, c'est de garder le cap. Et le cap, c'est mes valeurs, c'est les valeurs dans l'entreprise que j'ai aussi redonné à mes équipes. C'est ce qui donne à mes équipes certainement l'envie de travailler dans cette société, chez ce torréfacteur. C'est la philosophie qu'on apporte au café. Qu'est-ce que nous, on peut faire dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde du café? Comment on va représenter la filière? Comment nous, on représente le producteur? Et qu'est-ce qu'on peut changer?
À propos de producteur, est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver du bon café? Est-ce qu'il y a de plus en plus de compétition sur cet univers, vraiment de la matière première? Et est-ce que les changements climatiques auxquels on assiste ont un impact?
Est-ce qu'il est difficile de trouver du bon café? Oui.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Oui, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le café n'est pas assez cher. On n'achète pas assez cher le café au producteur. Voilà, en termes de valeur. On n'achète pas assez cher le café au producteur. On peut faire complètement le parallèle avec ce qui se passe avec l'agriculture en France. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des caféiculteurs, c'est 50 ans. Est-ce que demain, la nouvelle génération
va reprendre?
Est-ce qu'on va leur donner envie de continuer? Puisque c'est nous qui leur donnerons envie. Donc ça, c'est notre responsabilité. Ensuite, il y a trouver du bon café, c'est savoir faire du bon café. Donc il faut donner envie aux caféiculteurs de faire du bon café. Et il faut donner envie aux caféiculteurs de faire du bon café en minimisant l'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est à nous de porter ça. Si nous, on ne le porte pas, personne ne le portera.
Rose est productrice de café Robusta. Elle possède une plantation d'environ 1 hectare.
Il ne cueille pas le café tous les ans.
La cueillette dure 3 mois dans l'année. Pour éviter toute fermentation, elle doit se faire la veille de la collecte. Une tâche qui attire de moins en moins de jeunes.
Maintenant, quand tu dis aux jeunes de ramasser le café, ils vont secouer la tête parce que pour eux, c'est dur. Non, les jeunes, ils cherchent des trucs faciles. Et s'il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, ben, ça va s'arrêter. Hein. Donc si ça s'arrête, ça veut dire que nous aussi, on va arrêter.
Elle s'attable.
Et en quoi est-ce que le changement climatique affecte ou pas la production de café aujourd'hui?
Alors le changement climatique affecte forcément la production de café, puisqu'on va avoir une élévation des températures sur les zones où on produit du café. Donc ça, la façon d'y répondre, c'est déplacer les zones de culture.
Les remonter notamment.
Deux, la sélection variétale. Donc réussir à sélectionner les plants qui peuvent mieux résister, tout en conservant la qualité. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, la troisième méthode, c'est de revenir à des méthodes agricoles qui préservent l'environnement. Parce que le café, c'est une plante agroforestière. Il faut revenir sur sa méthode de culture. Donc c'est à la fois inciter puisque en fait vous avez tellement de variétés de pays et tellement de niveaux différents dans les pays, donc dans les pays qui sont passés sur des méthodes intensives, il faut les inciter à revenir en arrière. Dans les pays qui n'y sont pas passés, il faut les inciter à continuer à cultiver le café comme ils le font. Et ça, c'est notre rôle.
Le café est devenu universel, notamment grâce à des très grandes entreprises, que je vais citer, Starbucks, Nespresso, etc., qui ont fait du café un geste et une consommation qu'on retrouve aussi bien à Séoul qu'à Sao Paulo, en passant par l'Europe du Nord, même l'Afrique maintenant. Est-ce que tout ça a quand même contribué d'une manière ou d'une autre à changer le rapport au café au singulier et aux cafés au pluriel ?
Je pense que le café, ça a toujours occupé un moment particulier qui est plus lié au partage qu'à la qualité du café en lui-même. Et on le voit, c'est le café qu'on boit le matin, c'est le café de la pause, c'est le café qu'on vous sert au comptoir. Mais c'est très rare qu'on se pose une question, c'est qu'est-ce que vous me servez comme café ? Donc pour répondre à votre question, la particularité de cette filière café, c'est qu'aujourd'hui, 70% des volumes sont détenus par 3 industriels.
Ce qui est colossal.
C'est colossal. Donc, ils vont standardiser le café, que ça soit de l'offre premium ou que ça soit de l'offre plus...
On va dire d'entrée de gamme, mainstream.
On est sur des cafés de médiocre qualité, voire de très basse qualité, surtout qui ne rémunèrent pas les producteurs.
Mmh. Oui, donc ça forme le palais des consommateurs à un produit
très moyen.
Très moyen. Et ça fragilise les producteurs qui, eux, cherchent à produire des cafés particuliers ou légèrement différents.
Ça fragilise toute la filière, en fait. Ça fragilise toute la filière des gens qui cherchent à vivre du café. En fait, en concentrant 70% des volumes sur 3 industriels, on perd complètement la notion de traçabilité, donc on ne met jamais en avant le producteur.
Vous êtes une femme ? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes maman de 2 enfants relativement jeunes. À quoi ressemble une journée pour Anne Caron ?
Avec l'arrivée de mes enfants, j'ai appris une chose, c'est que c'est un temps qu'on ne peut pas prendre. Ça prend du temps, les enfants.
L'enfant est chronophage. À tous ceux qui n'en ont pas encore, sachez-le, l'enfant est chronophage. C'est aussi un centre de coups, mais...
C'est extrêmement chronophage, c'est du temps qu'on ne peut pas concentrer, c'est du temps qu'on ne peut pas prendre ailleurs. Donc il faut organiser les journées pour consacrer du temps aux enfants, c'est important. Et surtout la qualité du temps qu'on passe avec.
Ils boivent du café déjà ?
Ils adorent le café, depuis qu'ils sont tout petits. En fait, le café que vous avez bu, il n'y a pas de note d'amertume. Mmh. Il est corsé, il est rond, il n'y a pas de note d'amertume, il est légèrement acidulé, c'est le premier mot que vous avez dit. Et les enfants adorent l'acidité. Ce n'est pas parce que je les ai incités, certainement ils m'ont vu boire du café.
Oui, le café est partout autour d'eux.
Ils ont goûté et en fait, je pensais que quand ils goûteraient, ils n'aimeraient pas, ils adorent ça. D'accord. Alors c'est moi, je suis plutôt en train d'essayer de les limiter quand même.
D'accord, alors donc ça donne des enfants très toniques.
Non, j'essaie de limiter, c'est-à-dire que je leur fais un tout petit fond de café avec de l'eau.
Voilà, et puis c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, le café, selon la manière dont on le prépare, a des degrés de caféine complètement différents, et notamment les espressos en sont finalement assez peu chargés.
Il y a deux facteurs qui vont rentrer en jeu dans la concentration en caféine de votre café, c'est déjà l'espèce, enfin la famille. Les Robusta contiennent 2 fois plus de caféine que les Arabica, donc déjà les Arabica contiennent moins de caféine. Ensuite, plus la plante pousse en altitude, moins il y aura de caféine, puisque la caféine, c'est un insecticide naturel. Donc la plante sécrète de la caféine pour éloigner les insectes. En altitude,
protéger ses grains.
Voilà. Et du coup, en altitude, il y a moins de caféine. Okay. L'autre chose qui va faire jouer la caféine, c'est le mode d'extraction. Et effectivement, c'est un corps qui est soluble dans l'eau. Donc, plus longtemps l'eau est en contact avec la caféine, plus il y aura de caféine. Donc, il y aura plus de caféine dans un café long que dans un café court.
Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui ne connaissent pas forcément le café ou qui ne sont pas forcément amateurs éclairés de café et qui voudraient élargir leur palette de connaissances ?
Le premier conseil que je donnerais, c'est de pousser la porte des boutiques qui proposent du café, des torréfacteurs. Si vous achetez un paquet de café, il y a très peu d'indications pour vous dire si c'est un bon ou un mauvais café.
Donc, et le prix n'est pas forcément une garantie.
Des fois, on ne paye que le marketing. Hein. Donc,
les stars autour.
Pour ne pas les citer.
Nespresso. What else? Nespresso. What else?
Ensuite, il y a, dans le monde du café, il y a un terme qui émerge depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle le café de spécialité. Et le café de spécialité, ça correspond à une notation. Donc, on note le café, on note les qualités organoleptiques du café sur une note de 0 à 100, et à partir de 80%, on est sur ce qu'on appelle le café de spécialité. Ça représente à peu près 2% des cafés qui sont importés en France, et là, on a la garantie d'être sur la crème de la crème et sur les meilleurs cafés.
Combien de cafés avez-vous chez Café Caron aujourd'hui ?
Alors, 90% des cafés que je vends, c'est ce qu'on appelle le blend signature. Parce que la position de mon père que j'ai conservée, c'était de ne faire qu'un seul café et de faire le meilleur. Il disait, si je fais un autre café, je ferai un café moins bon. Donc, je veux faire le meilleur.
D'accord.
Mais pour les boutiques, j'offre d'autres cafés. Donc, principalement dans les boutiques rouennaises et havraises, puisque ce sont des maisons qui offraient différents cafés que j'ai conservés. Et sur la boutique de Paris, vous trouverez aussi d'autres assemblages.
Petite question également, café, on l'achète moulu ou on le moue soi-même ?
Le premier ennemi du café, une fois qu'il est torréfié, c'est l'oxygène, c'est l'air, puisque le café s'oxyde. Donc si vous le mouler, c'est un verbe qui est assez difficile à conjuguer.
Moulu, mouler.
Si vous moudrez.
Si vous l'écrasez pour en faire de la poudre.
Voilà. si vous l'écrasez, le café, en fait, vous multipliez
les points de contact. La surface de contact.
Et donc, du coup, il va s'oxyder plus facilement. Et vous le sentez, de toute façon, déjà, il va perdre son arôme parce que dès qu'il est moulu, ça sent très, très bon. Et donc, forcément, c'est ce que vous n'allez pas retrouver dans le café. Donc, moi, je conseillerais de moudre le café et de le boire le plus rapidement possible derrière. Et si jamais vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez le conserver au congélateur puisqu'en abaissant la température, vous ralentissez les échanges.
Anne, peut-on boire du café tout le temps ou pas ?
Ça dépend un peu de vous. Parce que le principe actif du café, c'est la caféine.
Ce qui peut rendre un petit peu agité.
Qui peut rendre agité, et il y a des gens qui sont très sensibles à la caféine et des gens qui sont moins sensibles à la caféine. Donc je dirais, ça dépend quelle eau vous avez tirée, et vous allez le sentir. Ce qu'on conseille, hein, c'est 2 à 3 tasses par jour.
Moi, il y a l'habitude quand même aussi, j'imagine.
Il y a certainement l'habitude. Moi, personnellement, je consomme entre 10 et 20 tasses par jour.
Et vous dormez quand même ?
Et je dors très, très, très bien. Alors, je constate, je pense que je ne suis pas sensible à la caféine ou peu sensible à la caféine. Mais moi, je dirais, comme je suis chauvine, que je bois un très bon café.
Aussi.
Aussi, voilà.
Elle s'attable.
On a une question traditionnelle dans ce podcast. On demande souvent aux femmes qu'on interviewe, puisqu'on n'interviewe que des femmes, si elles pensent qu'effectivement on peut changer le monde par des petits gestes, et notamment par l'assiette, par ce qu'on mange et par ce qu'on boit. Dans votre cas, Anne Caron, quel regard avez-vous là-dessus ?
Je partage complètement ce point de vue. En fait, on peut changer, quelle que soit notre portée, notre quotidien, par des petits gestes. Et je ne sais pas si on peut changer le monde, mais le fait d'y croire et de porter cette envie, ça permet peut-être de convaincre des gens. Moi, je sais que dans le monde du café, j'ai décidé de créer de l'impact. Et si moi, je ne le fais pas, je me dis personne ne le fera. Donc, créer l'impact, c'est d'aller à la rencontre des producteurs, en prendre en compte leur niveau de vie, essayer d'améliorer leur niveau de vie, les inciter à aller vers des démarches qui créent de l'impact sur l'environnement, un impact positif, et surtout qui fassent de la qualité.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes avec lesquelles vous travaillez, notamment chez les producteurs ?
Il y a de plus en plus de femmes productrices de café. Alors souvent, les producteurs de café, ce sont des toutes petites productions, hein. Donc toute la femme est impliquée, mais il y a de plus en plus de femmes qui représentent le monde du café et les producteurs.
Et est-ce que vous diriez que cette féminisation du café qui est progressive, que ce soit chez les producteurs à l'autre bout du monde ou ici en France, est en train de transformer cet univers.
Je pense que la féminisation du monde du café apporte un autre regard, un regard différent, plus de sensibilité et peut-être plus de résilience. Et je parlais de cap. Je pense que la volonté de maintenir un cap sur un monde meilleur est peut-être plus féminin que masculin.
Anne Caron, dernière question. Comment imaginez-vous demain, après-demain et les années à venir ? Vous êtes jeune, vous avez encore 30 à 40 ans dans le café, sans doute. Comment les imaginez-vous ?
Alors, je peux déjà dire que j'ai vu ce monde du café évoluer puisque les connaissances sur le café et l'appétence du café du grand public a considérablement changé en 15 ans. Et cette connaissance du café, elle ne fait que s'amplifier. Et plus les consommateurs connaîtront le café, plus ils voudront boire des bons cafés et plus je pourrai leur proposer des cafés responsables. Donc, moi, je vois l'avenir d'un côté extrêmement positif. Il y a plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux, il y a plein de belles choses qu'on peut faire, que ça soit sur la qualité du café, les méthodes agronomiques, le transport, puisque le café peut être transporté à la voile, les transports courts pour les ramener des ports jusque dans les boutiques, la torréfaction, les méthodes de torréfaction et la façon de le proposer. Je pense que c'est les enjeux sont passionnants et c'est un métier qui va continuer d'être passionnant très longtemps.
Et dernier point, il y a tout l'aval également, puisque vous vendez dans votre boutique des produits formidables faits avec le marc de café.
C'est vrai, en fait, dans nos villes, il y a quand même un sujet, il y a le sujet du déchet. Et le déchet du café, le principal déchet du café, c'est du marc de café. Et ce marc de café peut facilement devenir un coproduit et de revenir dans les champs pour nourrir les champs et être utilisé peut être utilisé de plein de façons. Donc ici, on propose des bûches à base de marc de café. On propose
des bûches à brûler, je tiens à préciser.
Des bûches à brûler à base de marc de café. On propose aussi un petit kit qui permet de faire pousser, utiliser le marc de café comme substrat pour faire pousser les champignons.
Par exemple, des pleurotes qu'on peut se faire sauter à la poêle ensuite.
Exactement, exactement. Et une fois que vous avez épuisé le marc de café de sa caféine, vous pourrez en continuer à l'utiliser pour vos rosiers. Donc il y a plein de choses à faire avec ce marc de café. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est surtout d'utiliser l'ensemble du marc de café que je récolte pour nourrir les champs à côté de là où je torréfie le café, donc à Saclay.
Merci infiniment Anne Caron pour ce moment. Merci pour ce café qui est bon, je le dis, il est bon. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas le café qui vous l'assure. Merci à vous tous pour avoir écouté cet épisode. J'espère que vous aurez tous l'occasion de venir goûter d'un café chez Anne Caron.
Merci.
Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à partager, à échanger sur ce podcast. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Elle s'attable.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.